L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bienvenue sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Ravi de vous retrouver ici toujours depuis le stade de Roland-Garros, ici même pour vous faire vivre pendant deux jours ce salon de la REF 2026 avec de nombreux invités qui nous rejoignent pendant ces deux jours. Ravi aussi d'être toujours aux côtés de Sylvain Lévy-Valency. Ça va toujours, Sylvain ?
Écoutez, ça va toujours aussi chaudement. J'aurais jamais imaginé, mon cher Jean-Baptiste, qui ferait aussi chaud.
Dans une fournaise.
Je suis très content, c'est que, comme on l'a dit depuis ce matin, on a une vitalité d'entrepreneurs très inscrits dans le schéma et surtout très en phase avec ce que nous a dit Patrick Martin, le président du MEDEF.
Et justement, tiens, on pourra peut-être faire réagir notre invité à la déclaration tout à l'heure de Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonjour Loïc Quentin.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Sylvain.
Bonjour Loïc Quentin. Grosse actualité politique, n'est-ce pas Jean-Baptiste ?
Mais oui, on rappelle que vous êtes le président de la FNAIM. Bienvenue à vous. On avait commencé 2026 avec l'idée que le marché immobilier était enfin peut-être reparti, les transactions qui remontaient, des prix qui peut-être se stabilisaient, des acquéreurs qui même revenaient. Mais quelques mois plus tard, la FNAIM parle déjà d'un marché convalescent et d'une reprise qui pourrait chuter. C'est ça le constat aujourd'hui, au mois d'août, à la reprise ?
Oui, c'est le constat, je dirais, qui se confirme de plus en plus. Alors, si on regarde sur une année lissée, d'une année à l'autre, finalement, le marché n'a pas bougé en 6 mois. Mmh. On a perdu 4000 transactions en l'espace de 6 mois. Mais le deuxième semestre 2025 était un très, très bon semestre qui avait été, je dirais, relancé sous l'influence d'une baisse des taux d'intérêt. Et là, au deuxième semestre, on va être confronté, finalement, à quasiment 3 hausses successives de taux de BCE. On en a une au mois de juin. On va en avoir une septembre, ça c'est certain, et peut-être une en décembre. Et toute hausse des taux d'intérêt de la BCE bien, se traduit par une hausse générale des taux d'intérêt. D'ailleurs, on l'a déjà constaté, qui dénature à dégrader le pouvoir d'achat des ménages français. On avait annoncé une baisse des transactions de 3-5% en volume sur l'année 2026. Je pense que nous serons au rendez-vous. Et en même temps, l'instabilité politique et le contexte géopolitique international n'est pas de nature à ramener de l'optimisme. Et je dirais l'absence de visibilité sur l'avenir pour les Français, ce soit en investissement locatif. Aujourd'hui, qui risquerait, en l'absence de lecture réelle des programmes immobiliers et des programmes pour le logement des candidats à la présidentielle, c'est l'incertitude qui plane. 8 mois devant nous, 8 mois à finalement espérer mieux que la période qu'on a traversée.
Et qu'est-ce qui fragilise le plus aujourd'hui la reprise quelque part chez vous ?
Je pense que ce qui fragilise le plus, c'est une forme d'attentisme à la fois des vendeurs, d'ailleurs des vendeurs qui sont confrontés...
Mais c'est quoi ? C'est le moral des Français qui est atteint ?
Alors, il y a des contextes, il y a des paramètres économiques. Les paramètres économiques, être confronté à rembourser un crédit contracté à des conditions plus avantageuses, et ces mêmes qui avaient eu les conditions avantageuses, sont obligés aujourd'hui, notamment, d'accorder des baisses de prix où, au moment, ils se transforment en vendeurs. Quelqu'un qui a acheté il y a 5 ans, il a bénéficié des taux d'intérêt à 1,5%, et s'il rembourse son crédit, il a la double peine. Il faut qu'il emprunte à 4 pour refaire une acquisition, et en même temps vendre avec 10 à 12 ou 14% de baisse par rapport aux valeurs antérieures. Donc voilà, on est dans un contexte où le marché est contraint, et notamment les indicateurs économiques et les indicateurs financiers ne sont pas de nature à nous rassurer sur une reprise immédiate. Voilà. Donc une forme d'attentisme, je dirais, attendons pour voir, voilà ce que disent les Français. Il n'y a pas d'urgence, les transactions qui se réalisent sont des transactions contraintes, nées de l'obligation, décès, succession, etc.
Alors il y a trois sujets, Loïc Quentin, sur lesquels on voudrait avoir votre vision. On vient d'avoir à peu près les chiffres de tendance sur le logement, notamment le premier logement étudiant. D'ailleurs, merci, parce que vous aviez relayé le post que j'avais posté il y a quelques jours sur le logement étudiant. Je voudrais qu'on revienne aux chiffres, et notamment l'analyse qui avait été faite en partie par l'INSEE et des analystes. Et là, ça va très fort, puisqu'ils y montrent très fort, puisqu'ils disent carrément que le logement est structurellement devenu inaccessible. Oui. Vous voyez, fut une époque, on avait des difficultés à trouver, mais on trouvait. Là, structurellement et financièrement, on peut carrément plus loger.
Oui.
Là, il y a un vrai problème. Là.
Mais il y a un vrai souci, c'est ce qu'on a mis en évidence à notre conférence de presse de juin 2026, où on a démontré qu'il y avait une paupérisation et un appauvrissement général de l'accession à la propriété. En dessous de 50 000, il y a une baisse, je dirais une baisse tendancielle de l'accession à la propriété qui n'est plus permise pour de nombreux ménages. Déjà 50 000 euros, c'est déjà un bon revenu. au-delà de 50 000, on commence à pouvoir prétendre à devenir propriétaire en France. Donc c'est un vrai sujet, et il y a une paupérisation, et on l'a constaté.
Quand on voit le revenu médian, on se dit...
C'est très inquiétant, et on l'a dit il y a quelque temps, on est passé de 56,8% de propriétaires à 56% de propriétaires. On a perdu 0,80 de taux de propriétaire en France. C'est 240 000 logements qui rentrent sur la sphère locative, alors que l'offre locative n'est pas au rendez-vous, voire même il y a une attrition générale du parc, une insuffisance d'offres.
Alors d'où ça vient ? Est-ce que les Français se sont appauvris ?
Bien sûr que les Français se sont...
Donc ils ont perdu quoi ? Pouvoir d'achat, appauvrissement, cherté des prix ?
Oui, qu'est-ce puis surtout, j'aurais le relais de la politique du logement pour accompagner les jeunes, parce que la vraie question, elle est de permettre à des jeunes de devenir propriétaires. Mmh. Propriétaire sous la forme d'un investissement locatif ou propriétaire sous forme d'une accession à la propriété permise, mais c'est de plus en plus contraint et difficile pour les jeunes d'y accéder parce que les jeunes, je dirais, sont les plus délaissés dans le système. Quand on voit la galère, rien que la galère pour un étudiant aujourd'hui pour trouver un logement, on est en pleine rentrée universitaire, c'est une catastrophe.
Par contre, combattant.
Oui. Je dirais que et gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'on a prévu ? Gouverner, c'est prévoir, et on le savait très bien, que le nombre d'étudiants en France ne cesse d'augmenter. Il a augmenté de 1,5% l'an dernier. On a franchi la barre des 3 millions d'étudiants. On a encore pris 0,50% à cette rentrée universitaire, selon les estimations. Et on a une offre locative qui ne cesse de diminuer, avec une attrition du parc, un investissement immobilier dans le locatif qui ne fait plus recette, et notamment une offre qui se ne renouvelle pas. Donc c'est un vrai sujet. Donc, on est étudiant, on a du mal à trouver un logement. On est jeune travailleur, encore un peu plus. Même en location. Et quand on veut acheter, c'est extrêmement contraint et complexe, avec notamment des prix élevés qui proviennent d'un marché qui a connu une ascension et une progression inarrêtable pendant 15 ans, et soudainement qui est interrompu, et avec des conditions financières qui ne sont plus au rendez-vous et qui ne sont plus réductrices du pouvoir d'achat.
Marché aussi du locatif extrêmement contraint, contrainte au niveau de la fiscalité, contrainte réglementaire. Oui. On peut parler aussi du DPE, de l'encadrement des loyers, beaucoup de choses en fait.
Bah, tout ça s'accumule. Mais je dirais qu'aujourd'hui, est-ce que l'investissement immobilier en locatif fait encore recette ? C'est une vraie question. Aujourd'hui, le rendement moyen de cette 2-3, vous trouvez des placements des comptes à terme à 3,5%. Donc on a...
Loïc Quentin, il y a un paradoxe incroyable. La demande de logement a doublé, voire triplé. Même si on est à démographie constante par la décohabitation, les nouveaux usages, on ne trouve pas justement à se loger. Et à côté de cela, effectivement, les taux de rentabilité, on en a pris un sérieux coup dans l'aile. Il y a quelque chose de schizophrénant. Là,
schizophrénant, c'est mécaniquement...
Qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de demandes et que le marché n'est plus aussi rentable qu'il l'était ?
La demande, parce que... Oui, mais c'est pas parce que la demande, elle n'est pas génératrice d'une augmentation des prix. La demande, c'est l'expression effectivement d'une rareté, notamment, et d'une insuffisance de produits pour répondre aux besoins de logement. Les étudiants ne trouvent pas de location, les ménages ont du mal à trouver un logement adapté. Mais il n'y a pas forcément de corrélation entre une demande excédentaire et une élévation des prix. On est dans un moment où on a connu une augmentation, je rappelle, depuis 1996 jusqu'à 2021. On a été sur une période ininterrompue de hausse des prix, à l'exception de la crise de 2008. Progression ininterrompue des prix de l'immobilier.
C'est quoi l'idée alors ?
Décorrélée du pouvoir
d'achat.
Décorrélée du revenu et du pouvoir d'achat des Français.
C'est quoi l'idée alors ?
Ah ben, l'idée aujourd'hui.
C'est produire massivement du logement pour faire baisser les prix.
Oui, mais il faut produire du logement à des prix maîtrisés. Aujourd'hui, une production de logement, ce n'est pas le neuf qui va redonner, qui va permettre une accession à la propriété permise à des jeunes ménages. Aujourd'hui, le neuf est à un prix notamment complètement déformé, d'ailleurs déformé par un financement du logement social qui empêche à des jeunes ménages d'accéder dans le neuf. Et pour pouvoir accéder, pour permettre aux jeunes ménages d'accéder...
Pourquoi vous dites déformé ?
Déformé. Parce qu'aujourd'hui, dans un prix de logement neuf, il n'y a pas un logement neuf vendu en France qui n'accompagne le logement social, notamment vendu à des prix inférieurs au prix de revient.
Et c'est plutôt une bonne chose.
Non, c'est pas une bonne chose.
Pourquoi ?
Mais non, mais parce que...
Mais pour permettre à des gens de se loger à des conditions...
C'est contradictoire avec ce que vous me dites, permettre à des
logements... Non, c'est deux choses. Oui. Vous parlez de la loi SRU, là.
Oui.
Parce que là, ce dont vous parlez, vous parlez de la loi SRU.
Bien sûr.
Vous parlez du quantum de logement réservé au logement social.
Oui.
Encore heureusement qu'il y a cette offre-là.
Ah non, mais ça n'a rien à voir. Entre le quantum, le pourcentage de logement réservé pour le logement social, c'est normal. Ça fait
mais il n'y a pas d'incohérence.
C'est une norme d'urbanisme, mais un promoteur aujourd'hui, quand il réalise une opération, on lui dit tu vas faire 30% ou 40% de logements sociaux, mais tu vas les vendre. Je prends le cas de Nice. Nice, on impose aux promoteurs de vendre à 2 600 € au bailleur social, Et pour cela, le promoteur doit vendre à 6 750 à l'investissement privé.
Vous voulez dire qu'il répercute le prix,
bien sûr,
le manque à gagner
sur l'investissement privé. Et quand il n'y a plus de Pinel, quand il n'y a plus d'incitation locative, quand il n'y a plus de réduction d'impôts, eh bien, l'élévation du prix contribue à une diminution du taux de rendement, avoir des taux de rendement dégueulasses,
d'accord,
à deux points, et qui rend plus l'investissement locatif
attractif. Donc vous, président de la FNAIM, vous êtes pour la suppression de la loi SRU?
Non, je ne suis pas pour la suppression de la loi SRU. L'article 55 de la loi SRU doit être maintenu, mais il faut, la vente en France, la vente à perte est interdite. Il faut simplement que ce gouvernement ait le courage de dire il ne faut pas monnayer avec le promoteur, notamment sur un prix de vente à perte. Le marché doit retrouver une valeur égale à un prix de revient avec une marge pour le promoteur, mais non pas qu'on fasse peser sur le promoteur le financement du logement social. Que l'État reprenne ses prérogatives, mettre en œuvre une politique d'accompagnement et de financement du logement social et d'aide.
Quoi pour vous, les promoteurs privés financent le logement social?
Bien évidemment, de façon indirecte. Par la réduction d'impôts qui a toujours été accordée, notamment par l'État au travers du Pinel. Tout
ça,
allait bien.
Ça, c'est juste. Tout à fait. Non, mais vous avez raison.
Tout allait très bien jusqu'au 31 décembre 2024.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison sur ce point-là. Mais quelque part, les bailleurs sociaux, pardonnez-moi, ont quand même été ceux qui ont acheté contracyclique des stocks aux promoteurs lorsqu'ils se trouvaient en difficulté.
Ah bah, à 2750 euros, qui s'en priverait?
Mais ils avaient zéro.
Non, mais attends,
Pardonnez-moi, mais les décotes étaient 12% en moyenne.
Non, mais à 2650 euros, mon ami Niçois est là, je peux vous dire, tout le monde achète du neuf. Il n'y a aucun problème. Non,
oui.
Enfin, il faut être raisonné quand même.
Alors, justement,
sur le sujet.
Alors, ok. Alors, intéressant, parce que je trouve que la vitalité du débat est intéressante. Justement, question. Quelle est la place, Loïc Quentin, du logement social dans le paysage immobilier? Si on prend le cas. Et je voudrais que vous distinguiez deux choses, si vous voulez bien. Je voudrais que vous distinguiez les ESH de type privé, des OPH, et le logement intermédiaire et le logement privé. Oui. Quelle est la place du logement social dans cette configuration? Parce que ce que vous semblez dire quelque part, Loïc Quentin, c'est que il y a des personnes, vous le savez, aujourd'hui des foyers qui n'ont pas accès ni à la location privée, ni au secteur privé.
Non, Sylvain veut déformer mes propos complètement. Je suis désolé, le logement social fait partie du parcours résidentiel des Français, et le logement social est la première strate d'accompagnement, notamment d'un demandeur de logement,
d'accord,
lorsqu'il a des revenus, effectivement, qui sont encadrés, qui lui permettent de bénéficier. Le financement du logement social, il intervient sous différentes formes, de par l'État, la politique de l'État, une politique d'accompagnement et de financement du logement social. On finançait le logement social avant que la loi du 13 décembre 2000 soit publiée, la loi SRU, et l'article 55 n'existait pas. Les bailleurs sociaux se finançaient, et notamment en autofinancement, grâce aux aides de l'État. Et je rappelle quand même que le logement social est financé en grande partie par l'aide personnalisée au logement qui est versée aux propriétaires bailleurs, qui vient en déduction des annuités et mensualités de remboursement sur les emprunts contractés. Les bailleurs sociaux, les ESH particulièrement, comme les offices publics d'HLM, ont des prêts à 35 ans, bonifiés, bonification d'intérêt de part de l'État, TVA généralisée à 5,5%, exonération d'impôt sur les sociétés. Donc je crois qu'il y a un régime d'accompagnement des bailleurs sociaux en France.
Donc pour vous, c'est 2024 qui a mis finalement un frein. Et notamment avec la RLS.
Il faut pas lier 2024 au logement social. Le logement social, il a toujours eu sa destinée, il existe depuis l'après-guerre. Il a été constitué dès 1950 et il a survécu. On a assuré 80% de la production de logement social jusqu'en 1980. Aujourd'hui, on en produit toujours, de façon moindre, mais c'est une branche essentielle. Mais on n'est pas non plus un ménage, n'est pas condamné à rester dans un logement social. Il peut devenir propriétaire de son logement social. Il peut bien évidemment aussi être favorisé sur une accession à la propriété dans d'autres domaines. Et ça, c'est une vision programmatique du parcours résidentiel des Français et de la politique du logement à faire en place. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le secteur social est bloqué, l'investissement locatif est bloqué et l'accession à la propriété est bloquée. Donc vous me demandez quels sont les éléments constitutifs d'une crise annoncée mais aujourd'hui devenue réalité. Les voici, et en même temps, l'investissement immobilier ne fait plus recette chez les Français.
Donc, l'accession. Tout est politique.
Et bien évidemment que tout est politique. Et simplement, aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'il va falloir penser autrement. Et il faut réformer ces schémas d'hier qui ne sont plus des schémas d'avenir et qui ne correspondent plus à la réalité économique du marché.
Et les propositions, vous les avez?
On en a des propositions. On n'est pas entendu, mais on va continuer à se battre pour en faire part.
Vous avez le sentiment de ne pas être entendu?
Bien évidemment, dans tous les cas, les corps intermédiaires, Patrick l'a dit tout à l'heure dans son discours, et il est extrêmement compliqué aujourd'hui que le monde de l'entrepreneuriat, que le monde de l'entreprise, les corps intermédiaires que je représente dans le domaine de l'immobilier, soient entendus de propositions. Je crois qu'on a affaire à notamment à des politiques qui sont autistes, des ministres qui ne font passer. Là, je salue l'intervention de Vincent Jeanbrun, enfin, peut-être tardivement, un projet de loi pour logement.
Tout à fait.
Mais qui sera là demain.
Il sera avec nous.
Mais je l'ai dit au rapporteur de la loi, encore hier, c'est une loi qui vient apporter une correction sur des erreurs. En réalité, le dispositif du projet de loi pour le gouvernement vient corriger notamment des excès de réglementation issus de la loi climat résilience de 2021. 5 ans après, on se rend compte de l'erreur. 5 ans après, on rétropédale. On considère que l'indécence peut être levée si on s'engage à faire des travaux dans un délai de 3 ans pour une maison individuelle et 5 ans pour du collectif. Donc ce n'est pas une loi d'ambition, une grande loi pour le logement, mais c'est au moins une loi correctrice que l'on réclame depuis 5 ans. Je ne vais pas m'en plaindre. C'est une loi courageuse, mais je ne sais pas aller jusqu'au bout compte tenu de l'anarchie politique qui existe dans les rangs de l'hémicycle parlementaire, 11 groupes parlementaires qui ne trouvent aucun accord ni de parti pris pour la défense de l'intérêt général des Français.
Loïc Quentin a passé un très bel été. Je le trouve très en forme. Je vous le dis, les amis, la rentrée s'annonce très très bien.
Vous en êtes où je suis ravi. À la FNIM du livre blanc que vous vouliez remettre aussi aux différents candidats avec vos propositions.
Tous les groupes de travail ont jusqu'au 15 septembre pour remettre leur copie. Donc c'est quelque chose qui sera présenté au Congrès et puis aussi à notre événement à suivre sur des propositions innovantes de la part de la Fédération. Oui, je ne dirais pas comme l'ont dit certains, il faut renverser la table, il faut bouger la table, mais dans tous les cas, il va falloir faire quelque chose pour le logement.
Dernier point, bien évidemment. Alors vraiment, je salue votre mise en forme, toujours aussi dynamique. Moi, j'aime bien vous titiller parce que notre ami Loïc Quentin, alors, quand il monte en gamme, ça fait des étincelles. Alors justement, les rendez-vous bientôt sont importants. Vous savez qu'il y a le CIPCA la semaine prochaine, le Salon Immobilier Bas Carbone au Grand Palais. Vous avez le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, vous serez d'ailleurs.
Je vais essayer d'y aller.
Qui a lieu à Bordeaux, là il y a vraiment un raisonnement. Et il y a le prochain congrès qui s'annonce également de la FNIM qui aura lieu.
7 et 8 décembre à Paris, Palais du Congrès.
Le 7 et 8 décembre, c'est The Place to Be effectivement en fin d'année.
80e anniversaire de la FNIM.
Voilà, et donc, alors justement, est-ce que l'agenda pour vous, Loïc Quentin, avec la FEDE et les régions, puisque je rappelle que vous êtes une fédération de chambres, bien évidemment, le deuxième semestre 2026 va être particulièrement chargé, à l'instar et à l'aube d'un bouleversement incroyable que va vivre la France en 2027.
Oui, dans 8 mois, on aura un nouveau président de la République avec un nouveau gouvernement. Et je crois qu'on est, je dirais, en situation d'inquiétude et on essaie d'avoir de plus en plus de visibilité, essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer, trouver des mesures adaptées. Pour l'instant, l'urgence, ça va être de venir en soutien au projet de loi déposé par Vincent Jeanbrun. D'ailleurs, il y aura des surprises, des amendements que la Fédération dépose. Je pense qu'ils seront adoptés. Peut-être qu'ils sont soutenus par le gouvernement. Il faut interroger Vincent Jeanbrun, notamment sur la vente en état futur de rénovation énergétique.
Mais c'est exactement
demain,
ce qu'on va faire.
Et je crois qu'il soutient avec beaucoup de force cette proposition, qui est une proposition originale de la Fédération qu'on porte depuis 3 ans, qui n'a pas été entendue, relevée par aucun député, relevée par aucun ministre. Enfin, un gouvernement, sous l'impulsion de Sébastien Lecornu, qui a du courage, qui affiche au moins des valeurs. Ça ne coûte rien à l'État. Ce n'est pas une question de budget. C'est une question, je dirais, de logique et de pragmatisme. Ayons des idées simples pour faire avancer la France du logement et sortons des sentiers battus et de nos idées préconçues.
Merci Loïc Quentin. Merci Loïc Quentin. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également de votre fidélité. Cette émission, comme toutes les autres, vous la retrouvez évidemment en replay, disponible sur l'ensemble des plateformes. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité. Ne bougez pas, à tout de suite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.